Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Hier, le centre Georges Pompidou dévoilait la liste d'une série d'événements organisés par 8 institutions culturelles pour interroger l'histoire et l'héritage de mai 68 à l'occasion du cinquantenaire des événements. Car outre le centenaire de l'armistice de 1918, les 60 ans de la 5e République ou les 170 ans de la révolution de 1848, la France célébrera donc cette année les 50 ans d'une révolte citoyenne et on va essayer de comprendre ce qu'est cet événement, ce qu'il représente, ce qu'il devrait représenter à l'avenir. Nous sommes en compagnie de Boris Gobi. Bonjour. Vous êtes politiste, historien, maître de conférences en sciences politiques à l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez notamment publié mai 68 des écrivains crise politique et avant-garde littéraire aux éditions du CNRS. À côté de vous, Julie Pagis. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sociologie politique au CNRS et membre de l'IRIS à l'EHESS. Vous avez publié mai 68, un pavé dans leur histoire, événement et socialisation politique aux presses de Sciences Po. Julie Pagis, s'agit-il d'un événement important, mai 68 ?
Bonjour. Évidemment, c'est un événement qui est important, qui est central, dont on oublie certaines dimensions. Et peut-être la première importance, c'est que ce fut la plus grande grève générale du XXe siècle, avec entre 7 et 10 millions de grévistes. Donc, une France, un monde du travail arrêté. Un événement qui concerne une grande partie, pas toute évidemment, mais une grande partie de la population française. Et donc un événement important aussi dans la mesure où il y avait des crises dans différents secteurs avant. Et ces crises rentrent un peu en résonance. Et donc il y a un moment quand même où l'ordre social vacille. Donc si on veut définir qu'est-ce qu'un événement politique important, en tout cas il y a cette question de l'ordre social qui vacille, avec évidemment le départ à l'étranger du président à cette époque-là.
Et le départ à l'étranger, on va en reparler également de Cohn-Bendit, lequel a été beaucoup commenté. Boris Gobi, votre regard sur cet événement, qu'est-ce qu'un événement important? En quoi mai 68 mérite-t-il d'être commémoré?
Alors, que ce soit un événement important, c'est ce que Julie Pagis a dit, c'est-à-dire que c'est un événement qui, sur le moment même, fragilise l'autorité de l'État, ou plus exactement du régime gaulliste, au point que à un moment donné, durant ce qu'on a pu appeler la semaine flottante, on se demande bien si ce régime va survivre. Donc c'est quand même un indice assez fiable de ce que c'est qu'un événement important. Mais je pense qu'un événement important, ça se mesure aussi aux effets que ça peut avoir. Alors de ce point de vue-là, c'est compliqué parce que on a tellement dit de choses sur les effets supposés de mai 68. On a prêté à mai 68 d'avoir été la cause de plein de choses sans réussir à le prouver au niveau, je veux dire, macro-social. Que l'une des manières, en fait, de pouvoir se donner des indicateurs plus fiables de l'importance que ça a pu avoir sur la durée, c'est d'en aller jusqu'aux vies individuelles. Alors c'est ce que Julie Pagis a fait dans un ouvrage, c'est ce que nous on compte faire dans un ouvrage qui paraîtra et qui s'appellera justement mai 68, raconté par celles qui l'ont vécu, celles et ceux qui l'ont vécu. C'est comment ça a pénétré jusqu'aux vies individuelles et sur la durée.
Et oui, puisque Julie Pagis, vous êtes allée à la rencontre d'acteurs, pas forcément d'acteurs connus d'ailleurs, puisque on a beaucoup commenter un certain nombre de figures de mai 68, mais derrière ces figures, il y avait des militants, tout simplement des Français, des citoyens, qui ont vécu cet événement. Et si vous deviez, en quelque sorte, résumer les propos de ces individus, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, Julie Pagis?
Une chose importante qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ne se reconnaissaient pas dans la construction médiatique d'une génération 68 qui serait reconvertie, qui occuperait les postes de pouvoir, qui aurait retourné leur veste, etc.
Rotary.
Voilà, quand on va travailler sur des anonymes ou des 68ards ordinaires qui n'ont pas fait parler d'eux ou pris la plume pour construire aussi la mémoire de cet événement, on s'aperçoit que... j'ai travaillé avec 200 familles dans lesquelles les parents avaient participé aux événements de mai-juin 68. Il y a des profils très différents. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à que me disent-ils. Ce que je montre, c'est qu'ils me disent des choses très différentes en fonction de leur âge, de leur passé militant, de ce qu'ils font en 68 et des conséquences de l'événement sur leur vie.
Est-ce qu'ils ont l'impression de s'être fait déposséder de cet événement, justement, par des figures médiatiques, par un regard, et vous allez nous dire si vous considérez qu'il est mythique ou pas, que l'on commence en quelque sorte sa vie politique à l'extrême gauche sur les barricades et qu'on la termine, sinon au gouvernement, du moins dans les cercles du pouvoir?
Alors, bien sûr qu'ils se trouvent complètement dépossédés par cette construction d'une mémoire, par quelques-uns, en fait, qui ont écrit sur leur propre trajectoire et qui ont un peu construit la mémoire de l'événement comme s'il était à l'image de leur trajectoire, qui n'est pas représentative de tous ces 68 arts. On peut penser, j'ai pas dit, évidemment, à Serge Julie, à Daniel Cohn-Bendit, etc. Et ces trajectoires singulières ne sont pas représentatives de ce que sont devenues la majorité. Et effectivement, en plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont eu tendance, en reconstruisant un peu la mémoire de cet événement, à gommer certains aspects et du coup à écarter notamment une grande partie du mouvement ouvrier, des avancées sociales, et à ne retenir quelque part que le côté un peu le joli mois de mai, pacifique, ludique. Et du coup, évidemment, la plupart des gens que j'ai rencontrés se trouvaient complètement dépossédés.
Ils ne se reconnaissaient pas dans le récit qu'on leur faisait de mai 68 ?
Ne se reconnaissaient pas du tout dans le récit, enfin dans un certain récit qui a été construit par ces personnes, qui a été aussi l'idée qu'il y aurait une génération de 68 a aussi été solidifiée avec la publication en 88 et 89 des deux tomes de Génération, Paramon et Rothman, qui étaient des livres passionnants, mais néanmoins qui portaient aussi uniquement quelque part sur un corpus de leaders. Donc les trajectoires de ces leaders qui avaient déjà le pouvoir, j'ai envie de dire quelque part, en 68, ne sont pas représentatives de tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre et à des âges différenciés de manière anonyme.
Boris Gobi, votre regard là-dessus ?
Oui, moi je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que il y a eu une opération de capture en fait de la mémoire de mai 68 par un certain nombre de figures connues qui avaient évidemment, au fur et à mesure de leur trajet de reconversion sociale et de reclassement social, intérêt peut-être à liquider les aspects, par exemple, les plus conflictuels de mai 68.
À quels aspects pensez-vous ?
Justement, ce qui a été souligné, c'est-à-dire son caractère de grand mouvement social. Et puis, les choses conflictuelles, ce sont les choses qui sont difficilement appropriables ensuite quand vous quêtez vous-même des positions de pouvoir. Par exemple, comment vous pouvez vous réclamer d'un événement qui réclamait l'égalité à ce degré-là, ou qui réclamait le fait que les individus ordinaires puissent participer à la décision concernant leur destin commun, y compris au sein des usines ? Parce que ça va jusque-là. Il y a des revendications autogestionnaires très très fortes en mai 68. Évidemment, lorsque vous vous insérez dans des cercles de pouvoir au sein d'une démocratie représentative qui n'a pas tellement évolué, c'est-à-dire une politique professionnelle spécialisée, il est difficile de vous revendiquer d'un moment où la politique est déspécialisée, c'est-à-dire revendiquée par tout le monde.
Une bonne manière de commémorer un événement, c'est déjà d'essayer de le comprendre. Et justement, les interprétations de mai 68, alors elles existent, et il y en a un certain nombre. On va en écouter une dans la voix de Raymond Aron. Je précise que j'ai choisi cet extrait-là parce qu'on a eu des difficultés à trouver les autres acteurs de ces interprétations de mai 68. On pourrait citer Castoriadis, on pourrait également citer Edgar Morin qui a livré une interprétation de mai 68. Voici en tout cas celle d'Aron, sans imaginer bien entendu qu'on ne parle pas des autres.
Je voudrais d'abord faire une confession, je ne crois pas qu'aujourd'hui je suis un observateur objectif. Je pense que j'ai vécu ces semaines dans de tels sentiments de colère, d'indignation, que je suis incapable de faire ce que j'essaye de faire d'ordinaire, c'est-à-dire de regarder froidement et lucidement ce qui s'est passé. Car j'ai vu autour de moi tant de gens que je croyais saints d'esprit devenir à mes yeux délirants, fous, tenir des propos sans signification, que je ne crois pas que je sois capable de dire il y a eu un magnifique sursaut de mise en question de la société, de contestation. Ce que j'ai vu, c'est une révolte d'étudiants explicable par un certain nombre de circonstances, et puis une contagion.
La voix de Raymond Aron, il publie quelques mois après mai 68 un livre, La Révolution introuvable. C'est un livre d'entretien, et il considère finalement que mai 68, donc au-delà de sa colère que l'on entend dans cet extrait, est en quelque sorte le signe de l'inadéquation entre le système universitaire français, la société française et sa capacité à l'absorber. Votre regard sur cette interprétation, sur les autres interprétations, Julie Pagis.
Oui, dans la voix de Raymond Aron, ici, on a entendu une des principales interprétations. 68 serait liée au déclassement de jeunes étudiants d'origine bourgeoise en rébellion, avec des fois des notes un peu psychanalytiques, en rébellion contre leurs parents. Donc cette idée que le déclassement entraînerait la frustration et donc la révolution, ou comme dans les mots de Raymond Aron, le délire, la folie, etc.
C'était la folie idéologique pour Aron.
Oui. Oui, mais alors sur cette question...
Les marxismes imaginaires, bref, toute la rhétorique qui consiste à dire il y a une sorte de bulle idéologique qui a éclaté en mai 68.
Oui, mais pour quand même finir sur cette question du déclassement, quand on va travailler empiriquement, quand on fait une enquête très large sur un certain nombre de 68 arts, bah déjà on s'aperçoit qu'il y en a très peu de ces profils-là, et qu'au contraire, en tout cas ce que l'enquête que j'ai menée dans ma thèse a pu montrer, c'est l'inverse, c'est lié aussi à l'évolution de la structure universitaire dans ces années 60, c'est au contraire des trajectoires d'intellectuels de première génération, c'est-à-dire les premiers de leur famille à passer le bac et à faire des études supérieures, et donc au contraire des trajectoire de mobilité sociale ascendante qui ont pu nourrir des dispositions à la critique d'abord du système universitaire, puisque c'est un système universitaire qui n'était pas adapté à ce nouveau public et dont ils n'avaient pas forcément les codes, et de ces dispositions à la critique du système universitaire, on peut aller assez rapidement contre la critique de l'ordre social. Et donc voilà, contrairement à ces interprétations qui ont longtemps prévalu, mais avec effectivement la thèse de Boris Gobille, les travaux de Louis Gruel, moi qui arrive après, heureusement, il y a eu finalement l'empirique. L'enquête montre qu'en fait, c'est la mobilité sociale ascendante qui a été importante.
Sur les autres interprétations, il y en a eu d'autres. Il y a eu également Edgar Morin qui a publié un livre intitulé « La brèche ». Il y a également l'interprétation d'Alain Touraine sur le fait que l'on passe à une société post-industrielle à ce moment-là. Peut-être que ce qui est intéressant aussi, Boris Gobille, c'est le fait de montrer que mai 68 est un tournant. C'est un tournant qui, en quelque sorte, préfigure la fin des Trente Glorieuses et annonce la crise qui va suivre.
Oui, alors cette césure en fait a été un petit peu relativisée parce que les Trente Glorieuses n'étaient pas si glorieuses que cela. Il y avait déjà, alors évidemment, vu d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y avait pas de chômage, mais enfin...
En termes de croissance, elles étaient glorieuses.
Alors en termes de croissance, oui, mais il y avait déjà des difficultés très très grandes dans le monde ouvrier qui ont donné lieu d'ailleurs à d'énormes grèves avant 68, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que par exemple 67 est une année très forte en termes d'intensité de grève. Mais il est évident qu'ensuite les choses vont s'aggraver infiniment plus. Donc de ce point de vue-là, c'est un moment de césure. Les interprétations, alors Edgar Morin a fait une interprétation dans le cadre d'ailleurs de ses associations, de son association ou ancienne association avec Castoriadis, puisque c'était dans un livre qui a été écrit ensemble avec Claude Lefort, qui sont très très intéressantes. Pour revenir sur l'interprétation d'Aron, parce qu'elle est séminale quand même. En fait, la folie dont il parle, c'est la folie idéologique, certes, mais c'est aussi une folie, psychologique, parce qu'il dit que ce mouvement est marqué par une névrose de surpopulation. Il compare les étudiants à des rats qui, lorsqu'ils sont trop nombreux, confinés dans un espace clos, finissent par s'exciter, quoi. Et ça montre bien que l'événement a fait perdre pied aussi à des esprits raisonnables.
Sur l'interprétation donc de Morin et sur les autres manières d'appréhender l'événement, Boris Gobille, peut-être résumer la thèse de Morin.
Bah, la thèse de Morin se concentre pour l'essentiel sur le monde étudiant. C'est une thèse qui aussi réancre la contestation étudiante dans des transformations antérieures qu'il avait d'ailleurs radiographiées dès le début des années 60, le mouvement yéyé, etc. C'est-à-dire une forme d'émancipation culturelle qui se traduisait aussi par une émancipation politique.
Parce que ce qui est intéressant quand même dans la thèse de Morin, c'est une manière de voir quasiment sismologique de l'événement qui consiste à dire il y a un certain nombre de phénomènes dont la France ne se rendait pas compte qui étaient à l'œuvre. Morin est un observateur extrêmement attentif de ce que l'on appelle aux États-Unis les cultural studies, autrement dit la manière dont la société évolue. Il va en Californie, il se rend compte que les choses changent et il dit voilà, il y a en fait une France bloquée qui est en heurtée par sa jeunesse, et cette jeunesse-là, eh bien, elle ne supporte plus le vieux monde. Ça aussi, c'est quand même une interprétation extrêmement courante de mai 68, Boris Gobille.
Oui, c'est vrai, c'est une interprétation qui n'est pas fausse pour le coup, c'est-à-dire que les mutations culturelles dont parle Edgar Morin sont observables. Une sorte de culture jeune se met en place qui se définit ses propres références au lieu de finalement se définir par rapport aux références des adultes, ou alors si, mais négativement, avec une forme donc d'autonomisation et d'émancipation à l'égard de la culture parentale finalement.
Mais c'est quand même essentiel. Enfin, on peut faire un rapprochement. Par exemple, on a vu ce à quoi on a assisté en France avec la mort de Johnny Hallyday, cette culture facture jeune avec des gens qui aujourd'hui ne sont plus du tout jeunes. Et ça, c'est Morin qui touche ça du doigt et qui voit dans mai 68 une forme de subversion culturelle de la culture des anciens. C'est donc une autre thèse. Et puis, il y a la thèse d'Alain Touraine où là, on assiste à une société post-industrielle. Et là aussi, c'est une thèse intéressante. Julie Pagis, peut-être pour évoquer cette thèse de Touraine, tout simplement parce que là aussi, on voit finalement que le fordisme est en train de s'essouffler en mai 68, même si on n'en est pas conscient, et qu'on va assister à une société où la manipulation des symboles ou des choses qui relèvent d'une autre ère que l'ère industrielle sont en train de naître.
Oui, alors là aussi, c'est compliqué de répondre de manière concise, puisque comme vous l'avez dit d'ailleurs, dont on se rend pas forcément compte à l'époque. Donc c'est aussi tout le problème évoqué tout à l'heure par Boris Gobi, de ce qu'on attribue a posteriori à mai 68, sans avoir vraiment les preuves empiriques de est-ce que c'était vraiment lié à cela. Parce que quand on va enquêter dans le monde ouvrier, alors comme l'a dit Boris, il y avait des mouvements, il y avait un début de désindustrialisation. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la région de Lille-Roubaix, les industries du textile connaissent des licenciements, des mouvements sociaux dans toutes les années 60. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un système qui est remis en cause avant 68. Néanmoins, quand on regarde les revendications ouvrières et qu'on se penche sur les avancées gagné en 68, sur notamment les lois de décembre 68, sur les syndicats, les libertés et les droits syndicaux, les syndicats qui rentrent dans l'entreprise, la représentation des syndicats. Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses que Alain Touraine attribue à 68, mais qui se développent en fait après. Donc il y a toujours cette question-là, il faut faire attention à ne pas attribuer à 68 des choses qui sont liées aux années 70.
Julie Pagis, mai 68, un pavé dans leur histoire, c'est aux presses de Sciences Po. Boris Gobi, mai 68, des écrivains, c'est aux éditions du CNRS. On se retrouve aux environs de 8h20 et on va évoquer cette fois-ci les dimensions politiques de mai 68 avec ses répercussions dans le débat politique jusqu'à aujourd'hui.